Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Que Dieu nous bénisse ce matin à travers tous ces chants. Je te veux dans ma vie, je te veux dans mon cœur et dans mon esprit aussi. Alors, je vous propose, de quoi pourrions-nous parler ce matin? Vous pouvez me donner une petite idée, non? Ah oui, on va parler de Pâques, hein, parce que je crois que c'est tout à fait de circonstance. Alors, on ouvre notre Bible, Jean chapitre 18, verset 1er. Alors, je vous ai dit Jean, Évangile de Jean chapitre 18, verset 1er, puis ensuite... Nous compléterons par un autre passage, similaire d'ailleurs. Alors, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, à Jérusalem, où se trouvait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Il se trouvait là un jardin. Alors, on va parler justement de cette fameuse question du jardin, mais permettez-moi avant, je voudrais lire un autre passage dans Matthieu chapitre 26 avec tous les compléments de ce que nous avons déjà, envisagé. Donc, Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et deux des fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Dans cette histoire de Pâques, et c'est intéressant quand même finalement de revenir aux fondamentaux de la Bible, de l'Évangile, parce que c'est bien cela. Hein. Tout commence ainsi, quelques versets que je n'ai pas lus, mais tout commence ainsi, ce qu'on appelle la passion du Christ. Le soir étant venu. C'est comme ça que ça commence. Ça s'est pas passé au petit matin. La passion de Jésus, c'est quand le soir est venu. La résurrection, c'est quand le matin est apparu. Il y a une petite nuance à faire, parce que la démarche que nous pouvons comprendre, c'est que Christ est la lumière, il n'est pas la nuit. Mais la nuit va venir, le soir étant venu, c'est-à-dire le crépuscule, à la nuit la plus ténébreuse, ou le crépuscule de la nuit la plus ténébreuse, qui n'ait jamais existé dans l'histoire, finalement, du monde. Dans un lieu qui nous est rappelé, qui s'appelle Gethsémané. Alors, en hébreu, le mot Gethsémané veut dire pressoir à huile. Alors, en fait, de pression, il y en a. Hein. Mais c'est un homme qui va être un homme Dieu ou Dieu homme, qui va être sous la pression de toute les conséquences des fautes et des erreurs des hommes, et nous avons finalement une réflexion qui est certainement très importante. Vous savez, pour beaucoup, Pâques, et je le disais encore vendredi soir, pour beaucoup de nos concitoyens, voire même de ceux qui se réclament d'une culture chrétienne, c'est avant tout une fête de famille, un grand week-end, où là on se retrouve autour d'un gigot. Alors il faudrait pas vous faire la recette, mais c'est souvent ça. On n'a retenu que cet aspect. Or, Pâques, c'est beaucoup plus que cela. Pâques, c'est tout. Pâques, c'est l'essentiel, associé naturellement à la résurrection. Et nous savons que ce jardin des Oliviers se trouve, pour ceux qui connaissent la Palestine et Jérusalem, eh bien, au pied du mont des Oliviers. C'est très intéressant d'ailleurs à les visiter. Et je l'appellerai ce matin le jardin des douleurs ou le jardin tout simplement du drame. C'est un petit jardin, hein, c'est pas grand chose. Hein. Je vous dirais que on pourrait presque dire c'est un mouchoir de poche. Il y a quelques oliviers et puis voilà, tout simplement. Bon, je vous dirais que ça fait à peu près 200-300 mètres carrés. C'est si peu. Mais c'est là où Jésus finalement, eh bien, a vécu notre salut, la préparation. Vous savez, Gethsémané était souvent considéré comme le calvaire de l'âme de Jésus, alors que la croix, c'était vraiment le calvaire du corps. Enfin, les deux, vous les assemblez, et ça donne finalement eh bien, ce que Jésus a connu, et ce que, je répète encore, on l'appelle la passion. C'est-à-dire que il est passé de l'ombre, le soir étant venu, à la lumière. Et j'aimerais dire quelques mots sur l'histoire des jardins dans la Bible. C'est intéressant, hein? Ça commence par un jardin dans le livre de la Genèse et ça finit aussi par un formidable jardin-paradis dans l'Apocalypse. Tout étant refermé dans cela. Éden, en persan, eh bien, Éden, jardin, ça veut dire paradis en quelque sorte. Alors, il y a naturellement le jardin d'Éden où il nous en est parlé dans le livre de la Genèse avec force de détails parce qu'il y a quand même deux chapitres où il nous est montré que Dieu a créé d'abord un jardin pour recevoir l'homme. Et il a tout simplement, eh bien, lui a donné une attribution à cet homme de le cultiver. Non pas parce que c'était un cultivateur et puis chapeau de paille et tout ce que vous voudrez, mais c'était simplement pour le développer, le développement de l'humanité à travers finalement le physique et puis le mental, le moral. C'est pour ça que le travail est quelque chose d'important, hein, quand même. Hein. Et puis, dans ce jardin, il y avait là toutes sortes de choses formidables et merveilleuses dont on ne peut avoir qu'une vague idée. Même les plus beaux paradis sur Terre ne sont rien à côté de ce que pouvait être le jardin d'Éden. Et puis, dans l'histoire de la Bible, il y a un autre jardin, celui de la convoitise et celui, tout simplement, eh bien, de la tromperie. Vous connaissez l'histoire de Lot, quand il était monté avec Abraham sur la montagne et qu'il a regardé en bas, et il a dit qu'il avait vu un jardin comme le jardin d'Égypte, verdoyant, formidable. Mais là, c'est là où il s'est trompé. Parce que il a tellement convoité, c'est que il a donné la priorité à descendre dans ce jardin et il a tout perdu après. Hein. C'était tout simplement Sodome et Gomorre, hein, pour le rappeler en mémoire. Et puis, il y a celui, le jardin du crime. Le jardin du crime et qui nous rappelle finalement cette histoire de Naboth. Vous connaissez bien votre Bible, hein? Naboth est le roi Akab, qui avait dit à Naboth, eh bien, donne-moi ta vigne, parce que moi, je vais en faire un jardin. Et ça s'est terminé par un crime. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est une histoire de jardin aussi. Et puis, il y a les jardins royaux de Salomon. Il nous est dit que Salomon était un homme qui, avait fait des somptueux paysages autour de son palais. Et puis il y a également dans Ésaïe une notation qui est faite sur le jardin de l'idolâtrie parce que Israël s'était livré à toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu. Et puis il y a les jardins d'abondance et de la restauration divine également, toujours dans Ésaïe. Quand Dieu nous dit et disait à Israël, eh bien, quand bien même tu serais un désert, quand bien même tu serais dans une situation d'aridité, moi je changerai finalement, eh bien, ton pays. Là où coule le lait et le miel, je le changerai finalement dans un pays d'abondance. Le prophète Ésaïe, tout cela. Et puis, il y a les jardins du scandale, oui, dont le prophète Ézéchiel nous parle, parce que Israël s'est livré à toutes sortes de faux dieux, à l'occultisme, à la magie, à toutes sortes de choses. Et il nous est parlé également dans Ézéchiel de la chute de Lucifer, qui n'est pas un nom biblique, hein, Lucifer, c'est les hommes, ange de lumière. C'est là où il s'est cru pour être finalement à la place de Dieu. Et c'est comme ça que d'ange de lumière, il est devenu le prince, finalement, des ténèbres. C'est à lire, hein, tout ça, hein. Et puis, également, il y a le jardin des paraboles. Le jardin des paraboles, c'est Jésus qui nous en donne une foule. Quand il parle du semeur qui sort pour semer, c'est un champ, c'est un jardin. Et il nous montre, il nous fait la démonstration de ce qu'est le royaume de Dieu et la foi, comme une petite graine et qui pousse et qui devient un arbre, qui devient de l'abondance également. Ça, ce sont les jardins des paraboles. La foi semence. Et puis il y a le jardin du sépulcre, qui nous parle de la résurrection, où la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau, mais que là, eh bien, les choses se sont révélées comme, en effet, eh bien, comme Dieu l'avait voulu. Et puis, il y a également, nous pouvons dire, dans l'Apocalypse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre la Genèse et l'Apocalypse, ce jardin formidable et merveilleux qui nous est promis. Je reprends le verset 36, quand il est dit ceci, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » En quelque sorte, c'est le dernier rendez-vous que Jésus va avoir avec ses amis, avec ses compagnons, et il va rentrer à ce moment-là, il veut qu'il l'accompagne, mais il va rentrer dans la solitude de la prière. Nous avons l'habitude de partager régulièrement, ici ou à Redon et partout ailleurs, des temps de prière collectifs. Mais il y a des moments où nous sommes conduits par la nécessité des événements de notre vie, des difficultés, des épreuves, à connaître ce que Jésus a connu, c'est-à-dire, eh bien, un certain isolement, où nous sommes là seuls, un seul à seul avec Dieu, un face-à-face avec Dieu en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé. Et ça commençait de cette manière. Il dira à ses disciples en substance, « Mais asseyez-vous pendant que je m'éloignerai » et il donne la raison de son éloignement pour prier. C'est curieux cela. Et nous allons voir que au verset 37, il nous est même précisé qu'il a pris avec lui Pierre et les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Trois disciples témoins qui vont être là, eh bien, qui vont constater eh bien, ce qui s'est passé, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu le récit, hein. On ne saurait pas. Il y a des chroniqueurs, hein, naturellement. Et ils vont être les témoins, tout simplement, dans l'extrême combat. Et vous savez, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé il y a très très longtemps entre Moïse et le peuple d'Israël qui combattait Amalek, les Amalécites, où il y a eu autour de lui, vous vous souvenez de l'histoire de Hur et Aaron, qui tenait ses bras, qui est l'image de la persévérance et de la puissance de la prière, qui revenait à Moïse pour que Israël puisse avoir la victoire. Et Jésus a fait un petit peu la même chose. Oui, Jésus est plus que Moïse. Et ses trois disciples sont plus que certainement davantage encore que Hur et Aaron. Mais la victoire a été prise parce que tout ça, ce sont des préfigurations bibliques pour nous montrer la réalité des choses dans eh bien, le message de l'Évangile. Et voici l'ultime épreuve morale qui commence. Parce que le texte nous dit d'une manière très claire, d'une manière très lapidaire, il nous dit, mais il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et je voudrais simplement signaler que les mots utilisés sont terriblement violents. Il y a une violence dont nous avons peut-être la difficulté à comprendre dans la traduction française, mais une chose qui nous montre, il commença à éprouver. Et ce qui veut dire que sa tristesse et ses angoisses sont allées en crescendo de plus en plus jusqu'à devenir insupportables et indicibles. Et il y a naturellement eh bien, une signification derrière tout cela. Et ces mots nous indiquent une lutte intérieure qui dévoile tout simplement quatre réalités ou devant quatre réalités épouvantables que Jésus va connaître à ce moment-là. C'est l'angoisse de devoir mourir. Vous savez, nous sommes des hommes et nous sommes faits pour vivre. Et pourtant, il faut bien se résigner, et je voudrais pas vous faire peur. Si vous n'avez pas cette assurance, vous pouvez l'avoir en croyant en Jésus-Christ, mais je voudrais quand même rappeler que toute vie se termine de la manière que nous connaissons. Et Jésus, homme comme nous, a éprouvé ce qu'il pouvait y avoir de terrible d'épouvantable de devoir mourir. C'est une chose qui nous est tellement mystérieuse. Mais néanmoins, c'est une réalité. On n'y échappe pas. On ne peut pas y échapper parce que c'est la loi de la nature. Mais la nature nous enseigne aussi que mourir, c'est renaître. Et tout a été mis en place par le Créateur, et nous avons les saisons pour nous le rappeler, c'est qu'après l'hiver, il y a le printemps. Après l'ombre, après la nuit de l'hiver, il y a la lumière qui revient. Et ça, c'est important, c'est Pâques, en quelque sorte. Donc, Jésus a éprouvé en premier lieu l'horreur de devoir mourir. Et toutes les souffrances qui accompagnent, finalement, eh bien, ce que ça peut être ressenti au plus profond de nos cœurs, de nos âmes et de nos corps. Parce qu'il y a une répugnance. Elle est tout à fait logique et naturelle. Et puis, il y avait la séparation d'avec son Père. Et vous savez que quelques heures après, Jésus dira d'une manière tout à fait pertinente, parce que ça reflète finalement ce qu'il est en train de vivre alors qu'il était sur la croix, il dira ceci, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec ce sentiment qu'il y avait comme s'il y avait un voile entre lui, sur terre, qui mourait, et puis dans le ciel, comme si le ciel était fermé, comme s'il y avait véritablement un mur d'airain impénétrable. Mais il y a une raison pour ça, on va le voir d'ici quelques instants. Et la troisième chose, c'était la séparation d'avec son Père. Oui, qui revient tout simplement à travers ce qui nous est dit, où là, il semblerait que Jésus soit abandonné pour quelques instants. Non pas parce que c'était lui qui était le coupable, mais c'est qu'il prenait la place des coupables, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. C'est ça, Pâques. C'est ça que notre société d'aujourd'hui, c'est notre génération d'aujourd'hui, ne sait plus finalement. On ne l'enseigne plus, on ne le dit plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société de culture chrétienne qui finalement, abandonne l'essentiel, le sens même de la vie, les principes de la vie et de la mort, avec une espérance, avec des principes, avec des repères. Donc, aujourd'hui, je suppose que c'est important de redonner un peu cette notion et de le donner peut-être particulièrement à la jeunesse, qui ne sait plus rien, qui ne sait pas grand-chose de cette histoire. Et pourtant, on en parle depuis 2000 ans. Et je voudrais quand même le signaler, c'est que tous les grands hommes qui sont apparus sur la terre, les empereurs, les tyrans, et puis tous ceux qui ont fait des conquêtes extraordinaires dont les livres d'histoire nous parlent, ils ont tous disparu. Leur civilisation et leur empire sont tombés en poussière, sinon qu'il reste quelques vestiges, des pyramides par ici, un temple par là, mais il ne reste rien qu'un nom écrit dans un livre d'histoire. Or, Jésus, de par le monde entier, on en parle encore. On l'adore, on le parle, on le prie, on le célèbre. Et c'est ça la grande différence. C'est quelque chose qui devrait marquer les esprits et qui devrait nous donner un sens particulièrement de ce qu'est l'histoire biblique et de ce qu'est l'histoire évangélique. Et puis, il y avait quelque chose, le quatrième point qui faisait que Jésus a commencé à éprouver des angoisses et cette immense tristesse, c'était l'abomination. Écoutez bien le mot. C'est un mot qu'on ne prononce pas souvent dans notre vocabulaire. Le mot abomination de devenir péché pour le monde entier, c'est-à-dire de porter le mal pour les hommes et les femmes de tout temps, de toute génération, à travers tous les siècles, avant lui, pendant, et puis jusqu'à nous. L'abomination de devenir péché. Écoutez, c'est Paul, l'apôtre, qui nous dit cette parole parce que il faut aussi la citer, je pense qu'elle est intéressante, et si nous sommes là ce matin, c'est pour tourner les pages de notre Bible, c'est pas pour autre chose. Et il nous est donné cette parole au chapitre 2, par exemple de Corinthiens, je voudrais le restituer parce que au verset 5, alors je vais retrouver tout cela, je vais vous le, voilà, où il nous est donné tout simplement, au verset 21, écoutez, il nous est dit que celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il était juste et saint, il nous est dit qu'il l'a fait, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes des coupables qui avons été absous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Rien de plus, rien de moins. C'est quand même pas difficile. Quand on voit la complexité des religions qui demandent tant de choses, tant de disciplines, tant d'abstraintes, tant de choses qui sont difficiles et que les gens font d'ailleurs. Pas ceci, pas cela, ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ceci et cela, mais... Alors que nous pouvons tous, les uns et les autres, être sauvés en disant « Je crois en Jésus-Christ ». Et là, à ce moment-là, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris notre place. C'est ça. Vous savez que le mot « Pâques », c'est un mot qui veut dire tout simplement « passer outre, épargner ». C'est cette vieille histoire des Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte, où là, le pays d'Égypte, l'empire d'Égypte a été complètement, eh bien, anéanti dans une condamnation, alors que le peuple juif, le peuple de Dieu, a été épargné. Et c'est comme ça qu'on a commencé à célébrer la Pâque. C'est comme ça que, aujourd'hui, eh bien, dans le monde entier, et le monde chrétien, les Israélites, sans le Christ, continuent à célébrer la Pâque. Mais nous la célébrons en Jésus-Christ. C'est tout à fait différent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance de Christ est indicible et s'exprime ainsi au verset 39, je poursuis, où il nous est simplement rappelé, puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il se jeta le visage à terre. C'est quelque chose de fort aussi, hein. C'est-à-dire que, il s'est mis par terre et le visage touchait la poussière. C'est ça. Et selon Hébreu, le livre des Hébreux, eh bien, nous avons là un complément d'informations aussi utile peut-être à rappeler, c'est que dans le chapitre 5 et au verset 7, il est dit cette parole, c'est lui, c'est Christ qui, dans les jours de sa chair, dans son humanité en quelque sorte, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa foi. Il a appris, bien qu'il soit le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Fallait-il que Jésus souffre ? Fallait-il que Jésus meure ? Mais il n'est pas mort pour lui, il est mort pour moi et pour chacun d'entre nous. C'est ça la différence. C'est ça qui est important de retenir. Et dans Luc, l'évangile de Luc, il nous est dit que Jésus, dans ce moment d'angoisse, eh bien là, a transpiré des grumeaux de sang. Ce sont les textes bibliques, hein, j'invente rien. Hein. Les textes nous disent que Jésus, dans cette situation, eh bien là, a tellement été sous pression, tellement dans l'agonie en quelque sorte, parce que c'est une agonie. Hein. C'est ainsi que les choses sont présentées. Incompréhensible. Incompréhensible souffrance. Incompréhensible calvaire, où nous pouvons apprendre au moins comment réagir dans nos angoisses. Nos angoisses, on peut en parler, hein. Nous sommes dans une société qui génère tous les jours des angoisses. Peur de perdre. Peur de perdre ceci, peur de perdre la vie, peur de perdre son travail, peur de perdre de l'argent, peur de ceci, cela. Et les gens sont angoissés à cause du stress, à cause de toutes ces pressions qui sont autour de nous. En latin, le mot angustia, c'est tout simplement la manifestation de ses angoisses, ou la traduction de ses angoisses. Les angoisses, c'est le jour, c'est la nuit, c'est toujours. Les angoisses, on les calme avec toutes sortes de palliatifs, mais en est-on guéri pour autant? La crainte et la peur qui animent le cœur des hommes et qui fait que ben, les gens sont profondément malheureux. Et c'est pour ça qu'ils se perdent dans toute chose pour fuir. Je fuis mes pensées, elles sont mauvaises. J'ai des cauchemars, j'ai toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, j'ai besoin véritablement que quelqu'un m'aide. J'ai besoin de trouver une solution, mais une vraie solution, pas quelque chose d'artificiel. Une réalité qui va me soulager. C'est ce que Jésus a connu. Mais comment réagir, nous, dans nos angoisses? Eh bien, vous savez que la solution, nous l'avons, puisque quelqu'un nous a précédés et nous a donné la clé pour y répondre à cela. Malheureux, malheureuse, tourmenté, opprimé, oppressé, écoutez la suite. Jésus pria, le texte, et Dieu l'exauça. Vous allez me dire que c'est tellement simple tout ça. Mais c'est simple dans les mots. Mais je voudrais vous dire que c'est aussi simple à le vivre si nous étions moins compliqués nous-mêmes. Tout est compliqué dans notre dans notre monde. Et c'est ça ce qui fait le drame. Dieu l'exauça, mais quel exaucement? C'est ça. Qu'est-ce que nous attendons? Et en ce qui concerne Jésus, eh bien, tout simplement, comme il parle d'une coupe, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe amère n'a pas été ôtée à Jésus. C'est quelquefois, lorsque nous crions à Dieu, nous disons, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, soulage-moi. Et nous attendons à être guéris. Pour la plupart d'entre nous, il y a aussi, finalement, l'expérience de la guérison et de toutes sortes de délivrances physiques et morales. Autrement, on ne serait pas là ce matin. Parce que nous croyons que ce Dieu est un Dieu vivant, qui répond à nos prières. Mais, vous allez remarquer que Jésus a demandé que ce drame qu'il était en train de vivre disparaisse. C'est logique. Humainement parlant, c'est ce que nous aurions demandé. Mais vous allez voir que cette coupe amère dont Jésus parle ne lui a pas été ôtée. Mais il y a quelque chose de plus grand et de plus fort, c'est que Dieu lui a donné la force de la supporter dans l'accomplissement de sa volonté. Et ça répond aussi à nos préoccupations. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi ai-je prié et que finalement, eh bien là, j'ai rien reçu? C'est l'histoire de l'apôtre Paul, vous connaissez, dans 2 Corinthiens. Et puis, c'est l'histoire de peut-être de beaucoup d'entre nous, où nous sommes restés devant une attente, une pathétique attente en disant « Mais j'ai prié, j'ai la foi !» Et finalement, il ne s'est rien passé. Eh bien, écoutez, on n'est pas différent. Jésus a prié, il a été exaucé, mais pas de la manière peut-être dont il avait demandé ou formulé sa demande. C'est que Dieu a quelque chose de plus à nous donner. Il a quelque chose de plus grand et de plus haut, de plus beau encore à nous donner. Et vous avez remarqué qu'on va le voir dans la description un peu de la suite, c'est que Dieu va lui donner ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire la force de supporter, de surmonter, parce qu'il dira, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté. Et vous savez, quand on souffre et qu'on est dans la volonté de Dieu, je peux vous dire que ça change tout. Ouais. Je dirais même, et si j'ose le dire, sans scandaliser personne, que quelquefois, on peut trouver une joie indicible, une joie incompréhensible, même au cœur de nos souffrances. C'est la force des chrétiens. C'est la force des hommes de foi. Le mot chrétien, il est peut-être un petit peu exagéré, parce qu'on peut être chrétien sans véritablement croire en Dieu et à Jésus-Christ. C'est un nom. Mais pour ceux qui ont fait vraiment cette expérience, c'est extraordinaire. Extraordinaire de pouvoir... Non pas dire, eh bien Seigneur, envoie-moi des épreuves parce que j'aime ça. Là, ça va mal. Là, ça va vraiment mal. Mais tout simplement de dire, eh bien Seigneur, tu vas m'aider parce que je suis dans ta volonté, tu me conduis dans ta volonté et je vais trouver l'énergie et tout ce qui m'est nécessaire pour finalement, avec ta grâce, triompher du mal qui veut essayer de me faire disparaître. Ça, c'est autre chose. Je poursuis. Le verset 38 nous dit cette parole tout simplement. Alors, Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Vous vous rendez compte? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce que quelquefois dans nos tribulations ou dans nos difficultés, est-ce que nous avons connu ça triste jusqu'à la mort? Difficile, hein, dire. Hein. Certains, j'ai connu des amis, des frères, hein, qui ont connu vraiment les limites. Moi, je me souviendrai toujours d'une nuit, personnellement, où vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Mais pas mourir seulement physiquement, mais mourir moralement. Mourir au plus profond de moi-même, comme un gouffre. Ça, c'est vraiment la caractéristique d'une grave dépression, hein, d'une angoisse. Et pourtant, je suis pas mort, je suis encore là. Mais j'ai appris beaucoup de choses. En tous les cas, j'ai appris qu'on peut être chrétien et avoir ce genre de choses, parce que certains prédicateurs disent, vous, si vous êtes chrétien, vous pouvez plus passer par la dépression et par l'angoisse. Tiens, je t'en fous, ils ont jamais fait l'expérience, hein. Excusez-moi, hein. Non, mais on parle comme ça sans savoir. Ouais. Mais ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi ils parlent. Et moi, je dis que quand on peut être chrétien et qu'on passe par des angoisses et par toutes sortes de dépressions, eh bien, c'est parce qu'on est humain, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est plus chrétien pour autant, parce que souvent quand on est en déprime, on se dit « Ah, je dois pas être bon, j'ai dû faire une faute, et ceci et cela. » Alors, rassurez-vous, je vous dis, vous restez quand même un enfant de Dieu. Voilà, tout simplement. Et n'ayez pas peur, ne vous laissez pas accuser par des gens qui disent n'importe quoi, parce que ça, ils ne connaissent pas. Parce que quand on est passé par là, je peux vous dire qu'on sait en parler, et après on a compassion des autres. Ça change les choses. Et Jésus y est passé. Alors, « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. » Un chagrin en mourir. Moi, je veux bien croire, et j'ouvre une parenthèse, je veux bien croire que quand on perd un être cher, un mari, une épouse, un enfant, quelquefois, ça peut être ça. Vraiment un chagrin jusqu'à en mourir, où on ne veut plus vivre. Ouais. C'est la vie, hein? Ça peut arriver à tout le monde. Mais faut savoir que Jésus, lui, a connu cela pour que nous ne le connaissions plus. Ou quand nous le connaîtrons, au lieu de nous submerger, de nous enterrer vivants, eh bien, nous allons pouvoir y trouver toute la force et même de bénir Dieu pour sa délivrance qu'il va nous donner. Eh oui. Alors, jusqu'à la mort. Restez, dira-t-il, et veillez. C'est les affres de la solitude dans l'épreuve. Vous savez, quand on traverse des moments difficiles, il faut quand même le reconnaître. On peut avoir un mari, une femme, on peut avoir des amis, on peut avoir toutes sortes de choses, toutes sortes de gens autour de nous, excusez-moi. Mais on est vraiment seul. Hein. Comme si on était en prison, comme si on était refermé avec des chaînes, avec des liens. Et on peut crier, on peut voir, les autres peuvent nous voir pleurer et nous voir dans cette situation. Mais même s'ils sont là, ils peuvent nous faire du bien, ils peuvent nous encourager. Mais on est vraiment seul. Pouh, on est comme sur une île déserte. Hein. Alors, il dira, mais vous n'avez pas pu veiller avec moi, c'est important, où toute l'humanité de Jésus est révélée, avant que n'éclate tout simplement la puissance de sa divinité, où il dira, mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand il a dit cette parole, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est la dernière parole, c'est le testament que Jésus nous laisse, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il était passé par la mort, il était ressuscité. Et aujourd'hui, le Seigneur est au milieu de nous. Vous le savez? Alors, peut-être pour ceux qui rentrent pour la première fois dans une salle comme ça, ne cherchez pas les statues. Ne cherchez pas les vitraux. Ça n'existe pas chez nous. Puisque Jésus nous a enseigné que ceux qui sont les vrais adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. On n'a pas besoin de représentation. On n'a pas besoin de choses auxquelles on se raccroche d'une manière sensible. Non, il y a une chose qui compte. C'est que moi, je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Et il est là. Pour nous faire du bien, pour nous parler. Et c'est vraiment quelque chose de très intériorisé. C'est pas l'extérieur. C'est au fond de notre cœur. Alors, dans ce moment fatidique, Jésus demande secours et assistance, mais il n'en trouvera pas auprès des disciples. Pour nous dire tout simplement que Dieu nous aide, mais nous, on peut pas aider Dieu. Jésus nous aide, mais on peut pas aider Jésus. Parce qu'à ce moment-là, on serait plus que lui. Alors qu'il est plus que nous. Il est tout. Paul dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Le verset 40 précise les choses. Et Jésus vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Une heure avec moi, c'est pas grand-chose, une heure. Sur une vie, pas grand-chose. Parce que quand on est en combat, physique ou morale, la fatigue spirituelle peut mener à cesser de prier. Oui, tout simplement, car veiller, c'est résister à l'envie de s'assoupir dans le découragement et dans la résignation. Et ça, ça en arrive à quelques-uns. Quand on est trop fatigué, là encore, je voudrais donner quelque chose de pratique. J'ai souvent des gens qui viennent me voir, même des chrétiens, qui me disent « Je traverse une épreuve difficile, je suis dans le trou, je suis dans le noir, je suis dans la dépression à cause de ceci et cela. » Et quelquefois, ils se culpabilisent à mort. Ils me disent « Mais je peux plus prier. » Vous pouvez plus prier? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Vous allez peut-être dire « C'est plus un pasteur, hein, là. » Eh bien, c'est pas grave. N'allez pas ajouter à votre mal encore un autre mal dont la suggestion vient de l'adversaire. Ah, tu ne peux plus prier? Ben, t'es un mauvais chrétien. Eh ben non, vous êtes de bons chrétiens, mais vous passez par une épreuve. Vous passez par la maladie, vous passez par des tourments, il y a des tempêtes, il y a des tourbillons dans votre vie, c'est un ouragan, voire même un tsunami. N'allez pas vous culpabiliser. Parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé moralement, psychologiquement, spirituellement, mais c'est sûr qu'on n'a pas envie de prier. C'est humain. Vous n'êtes pas Dieu, non? C'est humain, tout simplement. Il nous est arrivé aussi, quelquefois, d'être hospitalisé, opéré. Ben, vous savez, quand vous avez une sonde, ça me rappelle des souvenirs. Là, vous avez, il n'y a qu'une chose, c'est que vous avez envie de dormir et tout. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Vous avez compris, mes frères? Oui? Ne vous culpabilisez pas. Tout simplement. Parce que ça reviendra. Tout simplement, ça reviendra. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi, et il les trouva endormis, et un peu plus loin, il nous est dit que leurs yeux étaient assoupis. Ça, c'est difficile. Et il faudrait peut-être discerner la nature de ce mystérieux sommeil. Oui, les origines et la nature de ce mystérieux sommeil. Vous savez, quelquefois, on vient à une réunion de prière, comme nous en avons régulièrement, ou un matin, ou tous les matins, ou vous priez quand vous voulez, le jour ou la nuit, ça vous regarde, et qu'à un moment donné, vous êtes décidé à prier, d'un seul coup, vous avez envie de dormir. Oup, vous endormez. Peut-être que vous avez passé une mauvaise nuit, hein, c'est possible. Mais quelquefois, il y a aussi cette fatigue, mais il y en a un qui vient nous apesantir, qui vient nous écraser pour que nous ne prions pas. Et si vous le discernez, et c'est que vous le dénoncez, à ce moment-là, vous allez vous réveiller, vous allez voir. Et là, dans le jardin de Gethsémané, les trois qui étaient avec Jésus, Pierre, Jean et Jacques, qui n'étaient pas des moindres, eh bien, se sont endormis. Pourquoi ils se sont endormis? Tout simplement parce que ils étaient certainement traumatisés par tout ce qui pouvait arriver et qu'ils ne comprenaient pas. Mais moi, je crois qu'il y avait aussi l'ennemi. Vous savez, celui qui se promène le soir et la nuit dans l'obscurité et qui essaie de mettre sur nous un voile où on ne comprend plus rien, on ne sait plus où on en est rendu. On est en errance, on vagabonde d'un moment à un autre. Si on ne dort pas, il y a toutes sortes d'idées qui nous viennent qu'on n'avait jamais pensé auparavant. Parce que l'ordinateur, il marche à l'intérieur. Hein. Et il vous suggère des choses. Vous avez envie de prier, vous dites « je vais prier aujourd'hui ». Et là, il faut que vous pensiez que vous avez la voiture à amener au garage, il faut écrire une lettre ou un mail ou des choses comme ça, alors que c'était pas au programme. Toutes sortes de perturbations. Eux, ils se sont endormis. Et ils dormaient bien, puisque, hein, visiblement, ils étaient là dans les bras de Morphée. Verset 39, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus, donc, est en train de vivre quelque chose qui nous est rappelé dans le livre des Lamentations du prophète Jérémie, simplement, et je lis cela, parce que c'était un très très beau texte. Il nous est dit, mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, et on est quelquefois en droit d'y penser, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, mais voici ce que je veux repasser au fond de mon cœur, ce que Dieu me donnera, ce que Dieu donnera, me donnera l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses compassions ne sont pas finalement terminées parce qu'il renouvelle et elle se renouvelle chaque jour pour moi. Mais un peu plus loin, il est dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, il se tiendra solitaire et silencieux comme Jésus l'a été, parce que l'Éternel le lui impose et il mettra sa bouche dans la poussière. C'est l'image de l'humiliation la plus profonde. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'embrasser la terre. Hein. Il y en a qui le font, mais moi, c'est pas mon affaire. Hein, mais c'est vrai. C'est vraiment l'abaissement le plus profond. C'est ce que Jésus a vécu. Et c'est ce qu'il nous rappelle à travers tout cela. Un peu plus loin. Maintenant, il faut comprendre correctement la prière de Jésus. Et il faut savoir de quoi est cette coupe. Vous avez remarqué que cette coupe... Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous savez ce que c'est qu'une coupe? Il y en a de différentes formes et pour différents usages. Mais de quoi est faite cette coupe et ce qu'elle contient? Comme pour les jardins, il existe plusieurs significations et symboliques également, des coupes significatives et symboliques dans la Bible. Je voudrais en citer quelques-unes. Il y a les coupes la coupe de la délivrance ou les coupes de délivrance. Vous savez, dans le psaume 23, c'est la coupe du combat, mais de la délivrance dans les combats. Quand il est dit ceci, tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde en face de mes ennemis. Dans le psaume 116, le psalmiste nous dit ceci, j'élèverai la coupe des délivrances. Il y a la coupe de la consolation. dont le prophète Jérémie nous parle au chapitre 16. Il y a le vin de la colère, dans tout simplement Jérémie également. Il y a la coupe d'étourdissement. Alors on peut s'imaginer ce qu'il peut y avoir dedans, qui rend les gens fous. Et puis, il y a le coupe que Jésus a souvent parlé, c'est la coupe des impuretés, particulièrement pour les gens religieux, tels que les pharisiens. Ah oui, ils nettoient la coupe finalement à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est plein de rapines, de vols et de mensonges. Ça, Jésus nous en parle. Et puis, il y a la coupe de la nouvelle alliance. Regardez, elle est déjà prête. Vous connaissez, hein, naturellement. Il y a la coupe du Seigneur. Ce sont des termes qui sont employés dans la Bible. La coupe du sacrifice. La coupe de bénédiction, nous dira Paul. Ce que nous prenons lorsque nous sommes en culte, comme nous le faisons tous les dimanches matins, c'est une coupe de bénédiction. Je le rappelle, bénédiction. Diction, c'est dire le bien. Et quand je prends la coupe, eh bien c'est non pas pour que Dieu me rejette, mais au contraire, nous nous rapprochons l'un de l'autre. On a bien compris cela. Il y a les sept coupes de l'Apocalypse, dont vous connaissez, je ne reviens pas dessus. Non pas ce que je veux, dira Jésus, mais toi ce que tu veux. C'est une soumission totale pour une obéissance absolue qui correspond à une volonté livrée et morte de nos propres intérêts. C'était le cas de Jésus. Il ne vivait pas pour lui, il vivait pour Dieu. Et il vivait pour nous. C'est pour ça qu'il est mort, pour nous. Cette pathétique prière que nous avons devant nous, eh bien, n'avait pas pour but d'échapper, on l'a dit tout à l'heure, miraculeusement à l'épreuve. Parce que vous savez que dans la première tentation de Jésus dans le désert, c'était celle-ci, fait de ces pierres des pains. C'est échapper miraculeusement à la souffrance. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Et si nous faisons les associations dans toutes les histoires de la Bible, on s'aperçoit que la Bible, c'est un livre qui se tient. C'est cohérent. C'est pas des histoires. Ça se tient. Mais tout simplement, ce n'était pas d'échapper, mais de chercher, on pourrait dire de cette manière, une provision de courage et de force pour endurer les épreuves. C'est ça. Et c'est pourquoi, eh bien, toujours, je fais référence à Paul, parce qu'il a écrit pas mal de choses. Et quand Paul nous dit ces paroles, tout simplement, dans 1 Corinthiens, et ça peut être un encouragement pour tous ceux qui sont en souffrance, peut-être même précisément au moment où je suis en train d'en parler, il est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors ne dites pas que c'est trop fort, ne dites pas que c'est trop puissant pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous, mais si nous avons foi en Dieu, eh bien lui est capable de nous faire traverser tout cela, naturellement. Traverser tout cela. Et pour la deuxième fois, eh bien Jésus dira, comme cette parole nous le dit au verset 42, « Jésus s'éloignait une seconde fois, il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible... » Là, c'est au négatif. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est le mot. Que ta volonté soit faite, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Elle est parfaite au ciel, mais sur la terre, c'est toute notre affaire. Et moi, à ce moment-là, moi qui suis sur la terre, je m'adresse à un Dieu qui est au ciel, et lui va me donner la capacité de faire sa volonté sur la terre dont je suis incapable. Mais il va me donner la capacité. Quelle que soit la sévérité des combats dans lesquels nous sommes et des luttes, des épreuves que nous traversons, Jésus nous enseigne sa résolution et son plein accord avec son Père céleste. Et la fermeté qu'il va montrer dans cette circonstance, c'est un fruit de l'esprit. Si vous connaissez bien votre Bible, vous savez que il y a les fruits de l'esprit, les fruits spirituels. On peut dire ça de cette manière. C'est la fermeté, c'est la ténacité, c'est cette capacité envers et contre tout à supporter avec amour, dans la joie, dans la paix, dans la douceur, sans agressivité, dans la foi, en étant fidèle. Eh bien, d'aller jusqu'au bout. Parce que Jésus a accepté le prix à payer, cela prouve qu'il est impossible d'être sauvé sans la croix du Christ. Sans la croix que Jésus a vécue. C'est pas possible. Alors, ne rabaissons pas la croix à un simple objet qu'on accroche à un mur ou que l'on porte sur soi. Je ne juge pas, je respecte la conscience des uns et des autres. Mais la croix, c'est pas ça. La croix, c'est plus qu'autre chose. C'est un message divin au fond de notre cœur qui nous rappelle que quelqu'un est mon Dieu, il est mon Sauveur et mon Seigneur. Et là, ça, c'est ce que j'ai besoin de savoir. Parce que la croix, c'est le centre de l'Évangile. C'est l'essentiel même. Je voudrais terminer en parlant et en revenant aux disciples anesthésiés. Oh, ils n'étaient pas sous perfusion, n'ayez pas peur, ça n'existait pas à l'époque, mais ils étaient quand même bien endormis. Anesthésiés, comme une sorte de torpeur étrange. On peut connaître ça parce que nous avons changé de camp, mes amis. Oui, nous n'appartenons plus à l'autre, mais nous appartenons à Dieu. Et il y en a un qui n'est pas content. Et là, je peux vous dire qu'il s'occupe de nous, que les pressions, les tentations, les menaces de tous ordres, eh bien, sont là. Jésus ne peut compter sur eux. Est-ce que nous pouvons poser la question, est-ce qu'il peut compter sur moi? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Alors que nous pouvons toujours compter sur lui. C'est ça ce que ça veut dire un peu tout cela. Parce qu'on peut peut-être y ajouter un adjectif, Jésus est indéfectible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Et puis, cette ultime recommandation qui nous est donnée au verset 41, où « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors ce matin, vous êtes venu dans de bonnes dispositions. Vous vous êtes dit « Je vais au culte, c'est le jour de Pâques. » Non, non, parce que vous êtes là régulièrement. « Je vais faire mes devoirs religieux. » Non. Non, non. Vous êtes venu parce qu'il y a quelque chose d'autre dans votre cœur, tout simplement. Et il est parlé d'un esprit bien disposé. Et c'est vrai que quand tout va bien et quand on n'a pas trop de problèmes, notre esprit intérieur est bien disposé. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux faire ta volonté. Je veux te servir. Et ceci, je veux t'obéir. Mais quand il y a aussi cette petite dispute et cette petite discussion qu'il y a entre moi et moi, c'est-à-dire l'homme de l'esprit, et puis l'homme d'en bas, c'est-à-dire ma nature humaine, avec ses tentations, avec tout ce qui me plairait, mais que je sais que c'est pas bon. Et puis, il y a tant d'autres choses. C'est la dualité, la double nature de la humaine. Et vous connaissez, je parle pas dans l'inconnu, là. Je crois que vous connaissez un petit peu. Si vous avez jamais eu de tentation, vous viendrez me voir parce que vous êtes vraiment un spécimen. Ah ouais, c'est à mettre dans les annales. Le livre des records. Oui, d'une manière ou d'une autre. Puis les tentations sont pas les mêmes pour les uns comme pour les autres. Alors, Jésus livre ici un double secret de victoire. La cause de la tentation, d'une part, et la manière de l'affronter pour en triompher. Il y a les deux aspects. Un chrétien, c'est un homme. Oui, c'est un nom, c'est un lieu commun. C'est un humain. Faut pas penser parce qu'on est chrétien, on est converti, qu'on est au-dessus des autres. Non. Qu'on est meilleur que les autres. Non. Un chrétien, eh bien, est un homme. Et tout chrétien trouve ou se trouvera au centre d'une lutte incessante de choix entre le bien et le mal. Et ça, c'est tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Il y en a qui se posent même plus la question parce qu'ils ont tellement écrasé leur conscience. Ils sont marchés dessus. Voilà, c'est terminé. Tu te tais. Voilà, c'est moi avec le maître. Je fais ce qui me plaît, je fais comme je veux. Bon, ça c'est une chose, mais c'est peut-être pas quand même le cas de tout le monde, et je veux bien le croire. Donc, c'est toujours une lutte entre le bien et le mal. C'est notre Gethsémané, en quelque sorte. C'est le pressoir à huile. D'un côté, il y a la chair, notre nature, avec toute sa faiblesse. Et de l'autre, il y a notre esprit, ou notre relation spirituelle avec Dieu. Et quand nous lisons, par exemple, ce que nous dit les Galates, eh bien, nous comprenons que vraiment, il y a un combat. Dans Galates, très rapidement, je vais retrouver notre référence. Alors, Galates, j'avais mis des petites étiquettes ce matin, j'ai dû les perdre, alors c'est pour ça que je ne sais plus trop où j'en suis, mais c'est pas grave. C'est comme les œufs de Pâques, vous savez, ils sont partis un petit peu de tous les côtés, là, mes petites marques. Alors, donc, Galates 5,16, écoutez bien ces paroles, voilà. Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes spirituel, en d'autres termes, eh bien, vous n'êtes point sous la loi, et la loi n'a rien à vous dire. La loi de Dieu, hein, s'entend. Hein. La loi de Dieu, attention, parce qu'il y a la loi des hommes. Hein. Si vous me dites après, ben moi je suis plus sous la loi, le premier feu rouge que je passe, je le prends, et puis après j'envoie la facture au pasteur. Alors attendez, hein. Je paie pas tout. Hein. Voilà. Donc, le combat est titanesque, parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous-mêmes, entre ce que Dieu veut et moi ce que je veux. C'est terrible ça. Ça nous fait passer des nuits blanches quelque part. Hein. C'est affreux. Hein. Ainsi, selon ce que Jésus dit à ses disciples, veillez et priez. Veillez, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça prépare le cœur à résister, à supporter la tentation sans y céder. Et c'est par la prière, c'est le moyen par la prière qu'on obtient l'énergie, la volonté, grâce à Dieu qui donne la force nécessaire pour ne pas y succomber, tout simplement. Et il y a une belle parole dans le livre des Philippiens, je crois, Paul aux Philippiens, qui dira ceci, que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Moi, c'est une parole que je prends très très souvent pour moi. Seigneur, crée en moi le vouloir, le bon vouloir. Donne-moi de faire le bien, de faire ce qui est bien selon ton bon plaisir et pas seulement moi, selon ce que je pense et ce que j'ai envie. La conclusion, elle se termine tout simplement par ces quatre versets que je relis très brièvement. Il est simplement rappelé ceci. Puis Jésus alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. C'est Judas, hein, en d'autres termes. Il y a quatre injonctions que Jésus nous donne à la suite de ce combat de Gethsémané. Dormez maintenant. Jésus dit à ses disciples d'hier comme d'aujourd'hui, vous êtes en sécurité, dormez. Ils avaient tellement envie de dormir. Après, il leur dit, mais dormez. Parce que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité parce que j'ai tout accompli pour vous. Qu'est-ce qui est dit la dernière parole de la croix? Il y a sept paroles que Jésus va dire sur le mont du Calvaire. La première, c'est « pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». La dernière, c'est quoi? Eh bien, tout est accompli. Ou l'avant-dernière, parce que après, c'est « je remets mon esprit entre tes mains ». Voilà. Hein? Mais tout est accompli. Reposez-vous, car votre repos, notre paix de chrétien, Jésus nous dit « mais elle est en moi ». C'est pas en cherchant vêtements, toutes sortes de moyens extérieurs. C'est en moi seul, si vous me faites confiance, tout simplement. Dormez maintenant, reposez-vous, levez-vous. Et ça s'adresse à l'Église d'aujourd'hui. Il est temps de se lever pour rendre témoignage de la vérité que Jésus est mort pour le monde entier. Levez-vous! Oui? Ben, vous n'avez pas l'air de bouger. Hein. Ouais. Levez-vous, nous dit Jésus. C'est le temps de témoigner, nous dit Jésus, de ma victoire, parce que ma volonté est accomplie. Oui. Vous savez, nous sommes dans des pays qui sont où le christianisme n'a plus cours tellement. Mais je peux vous dire que vous allez en Asie, en Chine en particulier, et dans d'autres sur des continents, nous avons des missionnaires qui sont dans le monde entier, hein, actuellement. Hein. Je peux vous dire que le même message, c'est des messages où il y a 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui sont en train d'écouter et des gens qui se convertissent en ce moment. Où est notre pays? Où en est notre pays chrétien? Jésus a raison, hein. Les premiers seront les derniers. Et puis, allons, soyons les uns et les autres par la foi courageux et volontaires. Allons. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous fasse du bien, parce que nous ne sommes pas seuls, il est passé avant nous, il nous a tracé la voie, il nous a ouvert la route et nous pouvons que le bénir. Alors on va prier, puis je vais ensuite demander à Patrick de me rejoindre pour le repas de Sainte-Seine. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Permets qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Tu vois mes frères et mes sœurs et mes amis peut-être qui sont là ce matin, qui entendent ta parole et qui ont besoin d'avoir un message d'espérance, un message d'espoir. Et si véritablement, eh bien, l'histoire de la croix, l'histoire de Gethsémané est quelque chose de pathétique, quelque chose de profondément triste, c'est que la tristesse et toutes ces choses, eh bien, ont été prises, en effet, par Jésus, pour que nous connaissions la joie et le bonheur, et nous te louons et nous te bénissons, et nous voulons te dire, oui, Seigneur Jésus, j'ai mis en toi toute mon espérance, ma foi et ma confiance. Amen. Amen.